France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les députés britanniques ont rejeté toute sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni sans accord hier soir avec une courte majorité. C'est donc un nouvel échec pour la première ministre britannique Theresa May qui évoque maintenant la possibilité d'un deuxième référendum sur le Brexit au risque qu'il n'y ait pas du tout de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Aujourd'hui, le Parlement britannique doit se prononcer sur un possible report de ce Brexit initialement prévu, je vous le rappelle, dans 15 jours. Pendant ce temps, les douaniers français eux poursuivent leur grève du zèle et provoquent de longues files d'attente aux frontières. La rallonge de 14 millions d'euros proposée par Bercy ne leur suffit pas. Les douaniers protestent contre leur rémunération jugée trop basse et contre leurs conditions de travail, notamment dans la perspective du Brexit. Les États-Unis ont fini par céder. Donald Trump a annoncé que tous les Boeing du type 737 Max resteront cloués au sol aux États-Unis. Comme le Canada, il se rallie donc au consensus international après deux accidents de ces Boeing 737 Max en moins de 5 mois. Et dimanche dernier, le crash d'un appareil en Éthiopie avait fait 157 morts. Les boîtes noires vont être analysées en France. Le travail reprend au Venezuela, aujourd'hui jeudi, après une semaine passée sans électricité qui a paralysé tout le pays. Cette coupure est désormais oubliée. Selon les autorités, le courant est rétabli à 100% ce matin. L'actualité en France à présent est cette menace du syndicat national des gynécologues. Ses adhérents pourraient arrêter les IVG, les avortements, si les représentants du syndicat ne sont pas reçus par la ministre de la Santé. Le syndicat conteste en fait la condamnation de 15 médecins à de lourds dommages pour des erreurs médicales. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dénonce une prise en otage des femmes. Même réaction d'indignation chez de nombreuses associations féministes et collectives de médecins. Et puis une nappe d'hydrocarbures se dirige vers les côtes de la Charente-Maritime et de la Gironde en ce moment. Après le naufrage avant-hier du cargo italien Grande américain à 300 km de La Rochelle, cette pollution s'étend sur une dizaine de kilomètres.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images ? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps. La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel. Une masterclass avec Riyad Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel sera rock aujourd'hui. Et je peux même préciser, rock made in France. Mon invité, Yarol Poupeau, vient de sortir son premier album solo à l'âge de 50 ans, mais avant, il a eu d'autres vies musicales. Guitariste multiscène, touche à tout autodidacte, arrangeur bidouilleur, heureux bohémien, artiste rock'n'roll. Itinéraire d'un enfant du rock français des années 90 à aujourd'hui. Et ce réveil culturel avec Yarol Poupeau a été préparé avec Corinne Amar et Maël Ray, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Philippe Mercher.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Imagine
Watama is supposed to do. Bonjour Yarol Poupeau.
Bonjour.
Alors ce premier album qui vient de sortir sous votre nom n'est évidemment pas votre premier disque. Vous avez une carrière de 30 ans derrière vous. 5 albums avec FFF, groupe mythique des années 90, des années funk. Vous avez aussi composé des bandes originales de films, au moins 2 albums avec le groupe Mud. Vous avez beaucoup réalisé d'albums pour d'autres chanteurs, d'autres groupes, avant de devenir le directeur musical de Johnny Hallyday, le directeur musical et son guitariste sur scène de 2012 jusqu'à sa mort. Alors on va tenter de résumer votre vie de A à Z, si vous voulez bien.
Allez.
Allez, l'abécédaire.
Allez.
Bah, A comme anglais, vous chantez en anglais dans votre album, à 2 exceptions près, 2 exceptions françaises, of course, dont une signée par Benjamin Biolay. Pourquoi ?
Bah, il se trouve que je baigne depuis que je suis enfant, même avant que je me mette à faire de la musique, dans une culture musicale anglo-saxonne. C'est-à-dire que à la maison, quand on était môme avec Melville, mon frère, notre mère écoutait Bob Dylan, les Beatles, Fleetwood Mac, enfin beaucoup de musique anglo-saxonne. Quand j'ai découvert la musique, moi, enfin ce que j'en ai découvert, moi, c'était Elvis Presley, c'était Chuck Berry, c'était Jimi Hendrix, c'était le Led Zeppelin, AC/DC, ensuite le funk, la soul. Enfin, je n'ai écouté quasiment dans ma vie que de la musique anglo-saxonne. Donc quand je prends une guitare ou que j'ai une idée de chanson, qu'une mélodie me vient dans la tête, les mots me viennent beaucoup plus facilement et plus évidemment en anglais. C'est un petit peu la langue, mine de rien, moi, sonne le mieux dans ma tête, en tout cas pour faire ce genre de musique. Après, c'est une frustration aussi. C'est une frustration de ne pas réussir à plus écrire en français. J'ai cherché sur cet album à écrire moi-même plus de textes en français, mais je me suis heurté à peut-être une certaine pudeur, à peut-être une timidité, à pas oser vraiment forcément exprimer. Le fait de chanter en anglais, ça cache un petit peu aussi. On peut un peu se planquer, on peut dire des choses plus intimes en anglais parce que c'est peut-être moins lisible, moins intelligible tout de suite. Alors que en français, c'est plus
donc
évident.
C'est aussi par pudeur. Allez, B comme bateau ivre, puisque nous sommes à la veille de l'ouverture du printemps des poètes, 20 ans déjà que ça existe cette manifestation. On peut aussi parler de poésie et de rock. Quels sont les poètes qui vous ont accompagné, qui ont le plus compté pour vous ou dans votre itinéraire de rocker?
Alors si on parle de poète pur, c'est sûr que Arthur Rimbaud, par exemple, est un poète moi que j'adore. Et puis je pense que c'était un vrai poète rock'n'roll aussi. Ça s'entend dans ses mots, dans sa poésie, et je pense que ça se ressentait dans sa vie aussi. On a un vrai poète rock'n'roll. Et après, on a des poètes dans le rock'n'roll aussi. Par exemple, Jimi Hendrix, pour moi, est un grand poète. Moi, j'adore. Jimi Hendrix, évidemment, est reconnu mondialement pour son jeu de guitare et ses chansons, ses musiques, mais c'est un grand poète aussi.
C'est comme cinéma. Alors, vous venez de le dire, Yarol Poupeau, votre frère est le comédien Melville Poupeau. Il lui arrive de venir faire de la musique avec vous, comme vous, il vous arrive d'aller de temps en temps du côté du cinéma.
Alors, Melville est bien meilleur musicien que je ne suis comédien. Melville, et c'est lui qui joue la basse, d'ailleurs, sur mon album. C'est lui qui joue toutes les basses. On a fait de la musique ensemble depuis qu'on est môme, donc ça se passe d'une manière très naturelle, ça se passe toujours très bien.
Et le cinéma a toujours été présent dans votre vie.
Très dans ma vie, parce que déjà je suis très cinéphile, j'ai grandi dans un milieu de cinéma, notre mère travaillait dans le cinéma en tant qu'attaché de presse. Et voilà, après moi, ma carrière de comédien, elle se résume à avoir joué mon propre rôle dans quelques films, comme ça, à droite à gauche, mais j'ai jamais eu vraiment de... Je peux pas me considérer comédien, ce serait,
Ça vous a permis de rencontrer Johnny Hallyday, au moins, le cinéma. Ça vous a permis de rencontrer Johnny Hallyday.
Ça m'a permis de rencontrer Johnny, effectivement.
Ce qui est pas rien.
C'est vrai.
D comme Duras. Marguerite Duras serait à l'origine de votre initiation à la guitare. Alors, l'information court d'article en article, il doit y avoir un peu de vrai dans cette information, mais même si c'est trop beau pour être vrai,
j'allais
dire.
Non, mais c'est vrai.
Alors, racontez-nous comment c'était.
On en parlait tout à l'heure, notre mère travaillait en tant qu'attachée de presse pour les films de Marguerite Duras. Et Marguerite avait donc cette maison à Naufle-le-Château, pas loin de Paris. On y allait souvent au week-end, passer du temps parce qu'elle s'entendait bien. Il y avait toute une bande de gens. Marguerite passait beaucoup de temps avec les gens avec qui elle travaillait. Il y avait une espèce de bande autour d'elle, de famille comme ça, d'artistes, de musiciens, de comédiens qui traînaient là-bas. Et son fils, Outa, avait une guitare, avait des disques de rock'n'roll. Et moi, enfant, je me rappelle clairement avoir vu cette guitare traîner sur un pied comme ça et avoir mis des disques et essayer de gratter la guitare pour voir un peu ce que ça faisait comme son avant même que je sache l'accorder ou en sortir une note correcte.
Avant même d'avoir ouvert un roman de Marguerite Duras.
Longtemps avant. Et donc je passais des heures comme ça essayer de gratter par-dessus les disques de rock'n'roll qu'il avait et donc, oui, effectivement,
L'abécédaire avec Yarol Poupeau continue. Eux, comme enfance, à quoi ressemblait la vôtre, Yarol Poupeau, vous qui êtes né à Neuilly, l'année de mai 1968?
Ouais, enfin, je suis né à Neuilly, mais j'y ai vécu peut-être 6 mois à peine. Non, mon enfance, ben oui, effectivement, on en parlait là avec Duras, une enfance quand même dans un milieu assez artistique, avec quand même une effervescence à la maison musicale, le cinéma, des gens très intéressants qui passaient. Et moi, j'ai grandi dans le 5e arrondissement, donc les arènes de Lutèce, le jardin des plantes.
F comme FFF.
Nous sommes le funky French family. Si le nom t'a surpris, déjà tu nous souris. Nous sommes la fédération française de funk. Les délires qu'on t'envoie ne sont jamais quels. Chez vous mangez des spaghettis. Si vous aimez l'ambiance et les mélodies, patience car avec nous vous serez servi.
Fédération française de funk, fondée en 87, vous avez fait quelques concerts mémorables dans les années 90.
Plus que tels, qu'on en a fait un paquet.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est votre première expérience hein, de groupe et de scène.
Complètement. Oui, oui, j'ai vraiment commencé. C'est une chance incroyable d'ailleurs que la première vraie aventure de groupe se concrétise comme ça avec FFF et nous mène très rapidement. Alors moi, j'étais pas vraiment là en 87, je suis arrivé en peut-être 88, 89, un truc comme ça. Mais oui, au bout de 2 ans, peut-être 2 ans et demi de galère à Paris, de petits trucs à droite à gauche, dans des fêtes, dans des concerts un peu organisés par nos soins à droite à gauche, on a très vite réussi à intéresser un label, un tourneur. Et oui, ça a été assez vite et c'est génial.
Et il reste un peu de cette énergie des années 90, du funk, dans votre tout dernier album, Yarol Poupeau.
Bah oui, oui, moi c'est une musique, moi effectivement, la première étincelle, le premier truc qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est le rock'n'roll, mais je suis un grand fan de musique black américaine, de soul, de rhythm and blues, et évidemment de funk, donc ça s'entend dans ma musique.
Et surtout dans ce morceau. C'est un extrait du dernier album, enfin du dernier album, du premier album solo de Yarol Poupeau, Girls. Et c'est vrai que ça renvoie à cette belle période de FFF. Comment vous avez traversé cette période, Yarol Poupeau, hein? Parce qu'il y a eu un succès immédiat, puis surtout il y a eu une tournée avec des rencontres exceptionnelles. Vous avez travaillé avec Bill Laswell, vous avez fait la première partie de George Clinton, Spike Lee qui réalise votre clip.
Bah nous, ça a été une aventure fantastique, ça a été 10 ans. D'un espèce de tourbillon, d'un grand 8 de musique, de rencontres, de voyages, d'aventures musicales et autres. Ça a été absolument dingue. Franchement, on n'a pas mis les pieds sur terre pendant 10 ans. Donc oui, c'était une période incroyable.
Que sont-ils devenus les autres, vos petits camarades?
Et ben, tout le monde va bien, ils vont tellement bien qu'on a refait des concerts depuis 2013. On a fait beaucoup de concerts, on a encore tourné l'été dernier. Et qu'on a en projet de faire un nouvel album sur lequel on travaille quand on a le temps, on se retrouve ensemble, on commence à avoir pas mal de chansons, donc peut-être un jour, qui sait, si c'est prêt, on sortira un nouveau disque. En tout cas, tout le monde va bien et tout le monde vous salue.
Allez, on continue cet ABCDR. J'ai comme guitare, forcément. Alors, vous êtes guitariste et forcément, quand on est guitariste, on voyage dans plusieurs univers musicaux. Vous avez joué un peu partout, vous avez joué en Jamaïque, vous avez joué avec des groupes de rock, mais aussi avec ceux qui étaient plutôt dans la techno, ou même un rock militant complètement différent, celui du groupe Zebda.
Franchement, moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est justement les rencontres, les mélanges, la mixité. C'est de ça que ça se nourrit. Faut pas oublier que on parle de rock'n'roll depuis le début. Le rock'n'roll, c'est déjà une musique bâtarde à la base. C'est déjà une musique mixte. C'est un mélange de rhythm and blues, de country, c'est parce qu'Elvis Presley écoutait en même temps Hank Williams et des vieux bluesmen qu'il a fait cette musique-là, qu'il a eu envie de mélanger tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Et évidemment, c'est pas de rester enfermé dans un genre très, très précis et devenir un espèce de spécialiste qui ne veut surtout pas aller regarder à droite à gauche ce qui se passe d'autre. Moi, j'aime les rencontres, j'aime être surpris, j'aime apprendre, j'aime découvrir. C'est pour ça que je me porte très très bien quand je vais faire de la musique, que ce soit à Kinshasa, à Kingston en Jamaïque ou dans des clubs de musique électronique. Tout ça, ça fait partie du même univers. Ce serait un peu stupide de vouloir cloisonner.
H comme Hallyday, forcément.
Ah, j'ai cru qu'on allait.
qu'on allait parler d'autre chose. Vous m'avez l'air plutôt à s'agir, le poupou.
Ah oui, oui, non, ça va plein de formes, surtout à cette heure-là.
Ouais, bon, H comme Hallyday. Quand Hallyday vous demande de le rejoindre, d'abord en tant que guitariste, ensuite comme directeur musical, quelles sont les questions que vous vous posez? Vous dites, on peut pas refuser une offre pareille, c'est une légende. Est-ce que vous vous dites, mais oui, mais cette légende va m'écraser, je vais pas pouvoir respirer, je vais pas pouvoir m'imposer.
Non, non, non. Les quelques questions que je me suis posées, c'est plutôt est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ça va lui convenir, ce que je vais lui proposer, est-ce que le public va être content, est-ce que le public va se retrouver dans ce que moi j'ai à lui apporter.
D'autant plus que vous n'avez pas grandi avec Johnny Hallyday, pour être sincère.
Non, mais effectivement, vu que quand j'étais môme, j'écoutais Elvis Presley, le rock'n'roll, les pionniers. Le seul français que j'aimais bien, moi, dans la bande, c'était Johnny, parce qu'il chantait cette musique-là, lui. Il avait fait des adaptations, des morceaux d'Eddie Cochran, de Chuck Berry, Oh Carole, où elle est terrible. Enfin voilà, donc moi je respectais énormément Johnny Hallyday.
Alors qu'est-ce qu'on apprend quand on travaille avec Johnny Hallyday aussi longtemps?
On apprend qu'on n'est pas là pour faire semblant. On apprend que quand on monte sur scène, on donne tout ce qu'on peut. Qu'on n'est pas là pour faire des économies, qu'on n'est pas là pour Non, on est là pour vraiment tout donner et pour s'oublier et pour... C'est ça qui touche les gens, c'est quand on n'est pas en... comment dire, qu'il y a une espèce de lâcher prise et que l'énergie du rock'n'roll, c'est ça, c'est vraiment cette espèce de...
C'est beaucoup de travail ou beaucoup d'improvisation et un état d'esprit?
Alors, c'est évidemment beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup d'implication, beaucoup de prise de risque et de mettre en danger dans l'instant présent, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'on peut toujours préparer tout ce qu'on veut avant et avoir répété pendant trois semaines méticuleusement tout ce qu'on a à jouer. C'est quand on est sur scène qu'il faut envoyer l'énergie et qu'il faut donner tout ce qu'on peut. Quitte à se planter, quitte à avoir complètement oublié ce qu'on a répété pendant trois semaines, mais il faut y aller pour de vrai. Si on essaie là pour faire semblant ou si on essaie timidement de bien rejouer la partition qu'on a prévue, au bout d'un moment, on s'ennuie, enfin en tout cas lui s'ennuyait et lui avait envie justement de gens qui l'entourent et qui se jettent la tête baissée dans le concert.
Voilà, ça c'était pour H pour Hallyday. I comme industrie du disque, est-ce que vos rapports avec les maisons de disques ont toujours été très bons? Est-ce que ou il a fallu faire des concessions? Il y a eu des ruptures?
Non, moi franchement ça s'est toujours bien passé avec l'industrie du disque. non, mais on a eu beaucoup de chance déjà, donc on parlait d'FFF tout à l'heure. Quand on a signé avec FFF, on a eu plusieurs propositions de différents labels, de différentes maisons de disques. On a été travailler avec ceux qui nous parlaient le plus de musique, avec ceux avec qui on sentait qu'on avait le plus d'atomes crochus musicaux et non pas forcément ceux qui nous proposaient le plus d'argent. Et ensuite, là aujourd'hui, ça se passe très bien aussi avec le label avec qui je suis. Je suis moi-même producteur, j'ai moi-même monté un label. Donc l'industrie du disque, oui, c'est compliqué. C'est pas une période. Il y a eu des périodes plus fastes, on va dire, dans l'industrie du disque. Mais toute l'industrie du disque, elle est jalonnée de crises et de voilà.
J comme jaguar. Quand je prononce ce mot, Yarol Poupeau, vous pensez à un animal ou à une voiture?
Je pense à un animal ou une voiture.
Les deux en même temps?
Les deux en même temps, ouais. Joe et Star conduisant une Jaguar.
Bon, très bien. Non, parce que vous conduisez une...
Une Mustang, ouais, mais ah. On n'est pas encore à la lettre M.
Comme Kingston, Jamaïque. Pourquoi vous êtes allé là-bas?
J'ai toujours été fan de reggae, de musique reggae depuis que Jamaïque, depuis que je suis au monde. Je crois que le premier disque de reggae que j'ai écouté, c'est l'album de Gainsbourg. C'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille. Et donc depuis, moi, j'adore le reggae depuis que je suis môme, Bob Marley, tout le monde. Il se trouve que j'ai fait deux albums avec mon ami Camille Bazbaz et un chanteur jamaïcain qui s'appelle Winston McAnuff, qui est un grand chanteur de rhythm and blues et de soul jamaïcain, et de reggae, donc évidemment. Et sur le deuxième album, on est allé passer une dizaine de jours avec Camille et Winston à Kingston, enregistrés dans des studios avec des musiciens jamaïcains, et c'était une leçon énorme de musique et de son.
Elle comme Led Zeppelin, vous découvrez Led Zeppelin comment? À travers les disques de votre mère ou c'est...
Alors peut-être que notre mère avait une cassette de Led Zeppelin. Non, je crois que c'est un copain qui me fait écouter Led Zeppelin à un moment où je commence vraiment à découvrir la guitare électrique et à m'intéresser aux riffs. Et que peut-être ça doit être World of Love, le premier morceau que j'ai entendu de Led Zeppelin. Mais oui, j'ai tout de suite accroché sur effectivement le son, l'énergie des riffs de guitare de Jimmy Page et l'écriture des chansons qui est fantastique et la diversité justement de ce groupe.
M comme machine, vous composez en passant par l'ordinateur la musique?
Oui, bien sûr, évidemment. Bah oui, carrément. Ce serait dommage de s'en priver. C'est très très pratique. Moi, je pars effectivement quand je suis en vacances. Souvent, j'amène mon petit ordinateur portable et j'ai des logiciels dessus qui me permettent dès que j'ai une idée de faire une petite maquette, d'avoir des sons sous la main pour pouvoir voir un peu à quoi ça peut représenter, à quoi ça peut ressembler. Donc oui, j'utilise beaucoup mon ordinateur pour faire de la musique.
Elle comme nuit, night si vous préférez, Yarol Poupeau. La vie d'un rocker est-elle toujours une vie d'oiseau de nuit?
C'est-à-dire qu'on fait un travail, nous, notre métier, c'est souvent la nuit que ça se passe, parce que déjà les concerts, c'est rare que ce soit l'après-midi, enfin sauf peut-être certains festivals d'été, mais en général les concerts c'est quand même après 20h, donc oui, ça se passe le soir. Et c'est vrai qu'on a un truc en studio, ou même quand on compose, quand on cherche des idées avec la nuit, les gens sont couchés, on est un peu plus isolé, le téléphone sonne moins, on est moins sollicité, donc on est peut-être plus concentré. Mais je sais pas si c'est propre uniquement aux musiciens, mais peut-être les auteurs aussi. Je sais pas, chacun sa
méthode. On va sauter quelques lettres, mais on continue.
Ah non.
On saute le O comme oubli, pour vous dire quels sont les...
Voilà,
P comme pressé, parce que vous en avez parlé. Q comme question existentielle. Est-ce qu'il y a des questions existentielles qui vous accompagnent?
Ah bah oui, il y en a toujours plein, mais j'essaie d'y répondre en faisant de la musique, c'est le but du jeu.
Ouais, qu'est-ce qui vous taraude en ce moment, Yarol Poupeau?
Moi, c'est des questions existentielles. C'est existentiel, ça me concerne moi, donc déjà. Bon. Non, mais il y a toujours plein de... Je sais pas, c'est... Faire de la musique, c'est une... Écrire des chansons, c'est une façon de se remettre en question, d'être dans le doute. Quelqu'un de totalement sûr de lui et à absolument dans des certitudes, à mon avis, à moins de choses à exprimer que quelqu'un qui est dans le doute. Je pense que le doute est un vrai moteur. Est-ce que je vais, combien de temps je vais continuer à faire de la musique? Est-ce que ma musique va plaire aux gens? Est-ce que, là, on reste dans le cadre hein, musical, est-ce que cet album va toucher les auditeurs? Est-ce que les trucs que je suis en train de vous raconter vont les intéresser ce matin? Oui, c'est bien, évidemment, c'est un doute perpétuel et c'est ça qu'un, le doute est un super moteur.
R comme rock français, vous avez une définition du rock français?
Il y a plein de groupes de rock intéressants en français. Je pense que le rock, il est français, mais pas... Enfin, je dirais, il est français, le rock, il est international. Le rock, pour moi, c'est plus une attitude, une façon d'être, un état d'esprit, on en parlait tout à l'heure, qu'un style musical précis. Dans les grands rockers français, évidemment, Johnny Hallyday, les groupes Le Téléphone, plein de grands rockers, il y a plein de jeunes groupes de rock actuels en France, c'est très intéressant. Mais pour moi, Edith Piaf est une grande rockeuse, Jacques Brel était un grand rocker. Donc le rock français, il existe et il est aussi international que le reste.
Est-ce comme solfège, on peut faire de la musique sans passer par...
Oui, c'est mon cas. Moi, j'ai jamais appris le solfège, mais je regrette d'ailleurs parce que c'est intéressant. Et puis, c'est joli les partitions. Bon. C'est joli tous ces petits signes-là. J'aimerais bien savoir lire les partitions.
Allez, on avance vite. On n'a plus le temps. T comme tournée. Bon, ça vous en avez parlé. U comme ubérisation. On peut maintenant acheter des musiques, rentrer en contact avec des musiciens via Internet. Vous avez déjà essayé de faire ça, Yaron Poupeau?
Comment ça? Acheter de la musique sur Internet, oui, bien sûr. Mais rentrer en contact avec des musiciens, via leur envoyer des messages sur non, j'ai jamais. Mais en tout cas, on est souvent rentré en contact avec moi, oui.
V comme Vernon Subitex de Virginie Despentes, lu ou pas encore?
Lu, bien sûr, lu, oui. J'ai pas lu le troisième, non. J'ai beaucoup
vous
lu.
Vous êtes retrouvé, hein?
Ouais, l'ambiance. Enfin, c'est un peu moins glauque quand même. J'espère.
Hein. W comme Wilde, Oscar Wilde ou plutôt Kim Wilde?
Ah bah Oscar Wilde quand même, Kim Wilde c'est sympa, mais alors Marty Wilde, le papa de Kim Wilde, ouais, qui était un chanteur anglais, genre justement un petit peu rock'n'roll des années 60, mais Oscar Wilde évidemment.
X comme inconnu, quels sont les univers musicaux qui vous restent encore impénétrables, Yaron Poupeau?
Alors justement, je m'intéresse, j'ai de grandes zones d'ombre encore, alors on va pas parler forcément de la musique indienne et des choses comme ça, mais par exemple je découvre John Coltrane là en ce moment, je me suis vraiment intéressé à John Coltrane et c'est fantastique John Coltrane. Je connaissais pas très bien, et donc je suis à fond dans John Coltrane, c'est passionnant.
On va en parler bientôt, puisqu'il y a un livre très intéressant qui sort justement sur John Coltrane, chez Le Mot et le Reste. Y enfin, comme Yarol, c'est votre prénom, c'est le nom de votre premier album solo, mais c'est pas votre nom officiel, si j'ai bien compris, ça a été retoqué par le service civil.
Oui, mes parents voulaient m'appeler Yarol, ils ont pas eu le droit parce qu'à l'état civil en 68, il fallait que ce soit un prénom du calendrier. Melville a eu le droit, lui il est né en 73. Non, c'est un prénom qui vient d'un livre de science-fiction, c'est le personnage est un vénusien.
Et puis enfin, Z comme Zorglub.
C'est Gaston Lagaffe, ça, non?
Presque.
C'est Spirou et Fantasio.
Exactement. Ouais.
Alors j'ai grande lacune, Spirou et Fantasio.
Et moi qui voulais vous dire, est-ce que vous vous sentez proche d'un héros de bande dessinée, Yarol Poupeau?
Moi?
Ouais.
Lucky Luke.
Bah voilà.
Allez, Capitaine Haddock, sinon.
Demain, on parlera bande dessinée comme tous les vendredis dans le Réveil culturel. Et demain, on sera avec le scénariste Fabien Vellman. On va quand même écouter un autre extrait de votre album. Yaron Poupeau, merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le cycle Mutation-Création au Centre Pompidou. Avec l'exposition La Fabrique du Vivant, cette troisième édition retrace une archéologie du vivant et de la vie artificielle dans la création artistique. Les œuvres d'une cinquantaine de créateurs et des travaux de recherche de laboratoires scientifiques dialoguent avec l'exposition monographique de l'artiste brésilienne Erika Verzotti. La Fabrique du Vivant, en partenariat avec l'IRCAM, jusqu'au 15 avril au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture. Réagir, témoigner, hashtag sur France Culture. Éric Chavroux.
Hashtag, quand le témoignage prend la parole, toutes les semaines, nous vous appelons à réagir sur les réseaux sociaux à propos d'un sujet de société, témoigner et compléter les paroles de ceux que nous avons interviewés, Hashtag, c'est dès le lundi sur les réseaux sociaux et le vendredi à 7h24 dans les matins et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Sous la pression, les États-Unis immobilisent à leur tour les Boeing 737 MAX. Le président Donald Trump a tranché au grand soulagement des pilotes américains, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous donnerons la parole aux surveillants de prison en France. Leurs représentants seront reçus aujourd'hui par la ministre de la Justice. Ils demandent davantage de moyens. Eux veulent garder leur poste. Les fonctionnaires de la finance publique sont appelés à faire grève aujourd'hui. La CGT s'en explique dans moins de 10 minutes. Après une grande partie de l'Asie, après l'Australie, l'Europe, le Canada, les Américains ont donc fini par céder. Le président Donald Trump a ordonné hier soir l'immobilisation des Boeing 737 MAX, une décision qui fait suite au crash aérien de dimanche dernier en Éthiopie, un crash qui a coûté la vie à 157 personnes. Ce mercredi, Washington a donc finalement tranché. Grégory Phillips.
Il aura fallu 3 jours à la Maison-Blanche et à l'AFA pour décider de cette paralysie des Boeing 737 MAX, modèle 8 et 9. Mais finalement, c'est Donald Trump qui l'annonce en personne. Ces appareils sont bloqués au sol. Ceux qui se trouvent dans le ciel américain vont jusqu'à destination, mais ne repartiront pas. J'en ai parlé avec la secrétaire au transport, Hélène Chao, dit Trump. J'ai échangé avec l'autorité de sécurité aérienne et avec le patron de Boeing. Tout le monde est d'accord avec cette décision. Boeing est une entreprise formidable. Il travaille très dur pour comprendre ce qui s'est passé, mais tant qu'on n'a pas de réponse, les avions restent au sol. Décision à effet immédiat. Southwest, American Airlines et United se plient immédiatement à l'ordre présidentiel et peu à peu le ciel américain se vide de ses Boeing 737 MAX. Mais les syndicats de personnel navigant trouvent que la décision a tardé. Il y a eu 346 morts dans ces deux catastrophes, dit Sarah Nelson sur MSNBC. Elle représente les hôtesses et stewards. Boeing et la FAA auraient dû réagir plus tôt. Si vous dites, écoutez, il y a un problème et on va s'en occuper, alors l'honnêteté paye toujours. Le régulateur américain, lui, évoque dans la foulée des déclarations de Trump de nouvelles données satellites qui viennent d'être recueillies et analysées et qui, à ses yeux, justifient maintenant le retrait provisoire de tous ces appareils.
Grégory Phillips, depuis Washington. Les États-Unis encore, où le Sénat, pourtant républicain, s'est prononcé contre l'implication américaine dans la guerre au Yémen, contre aussi le soutien apporté jusque-là à la coalition saoudienne. Le texte doit maintenant être voté par la Chambre des représentants. Non à l'accord négocié avec Bruxelles sur le Brexit et non à un Brexit sans accord. Les députés britanniques refusent de sortir de l'Union européenne sans traité. Ils l'ont dit hier soir par 312 voix contre 208 et ils voteront ce jeudi pour la troisième fois en 3 jours. À propos là d'un éventuel report limité du Brexit, le Brexit qui est toujours officiellement prévu le 29 mars, dans 15 jours donc. Theresa May, inusable, mais jusqu'à quand? La question sera posée par Xavier Martinet dans ses enjeux internationaux à 6h45 tout à l'heure sur France Culture. La Commission européenne de son côté se dit prête, quelle que soit la solution retenue. Eux sont prêts à redescendre dans les rues algériennes, étudiants, ouvriers, enseignants, chômeurs, médecins. Un appel à un quatrième vendredi de mobilisation est lancé pour demain, vendredi donc, et pour dénoncer cette fois le système Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, rappelons-le, ne se présente pas pour un cinquième mandat, mais il a reporté sine die la présidentielle qui devait avoir lieu à la mi-avril. De quoi attiser un peu plus la colère des Algériens. À Alger, Wahiba Filali a cherché à comprendre comment s'organise le mouvement populaire.
Square du Port Saïd à Alger, un collectif réunissant artistes, militants politiques, militants associatifs s'installe sur des escaliers pour débattre, réciter de la poésie imaginée pendant les manifestations.
On s'est battu et on se bat. Peuple digne qui ne meurt pas.
Ici, on chante, on rappe, on donne son avis, mais personne ne décide, ni les syndicats, ni les partis politiques.
C'est une conscience qui s'est éveillée.
Et ça va durer longtemps comme cela, selon Makassi Tinhinen, qui fait partie d'une association de défense des droits des femmes.
Il n'y a pas de figure, il n'y a pas de parti, il n'y a personne derrière. On n'en veut pas même. Vous partez de la pensée de ce qu'on voit en politique en Europe, d'individus qui ont guidé les peuples, etc. Nous, on vient d'une histoire où le leadership n'a pas existé pendant notre histoire. Et on n'a pas eu un seul héros, on a eu les héros de l'indépendance. Mais on reste toujours conscient d'une chose, un seul héros, le peuple, uni.
Un avis que ne partage pas du tout Jalel Mokhlani, il est membre de l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse.
C'est un mouvement spontané et citoyen, mais au bout d'un moment, il faut qu'il soit encadré. Il faut qu'il y ait des porte-parole à ce mouvement. Pas dans le sens d'être la voix du peuple, mais dans le sens beaucoup plus d'être les fédérateurs entre les citoyens et les partis du pouvoir.
Un profil semble même se dégager selon lui, c'est celui d'un avocat, Mustapha Bouchachi, avocat et défenseur des droits de l'homme.
Les surveillants de prison seront reçus aujourd'hui à partir de 9h, tout à l'heure par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, plus d'une semaine après l'attaque au couteau contre deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Depuis, ils bloquent plus d'une douzaine d'établissements. Ce matin encore, ils demandent davantage de moyens, Soizigbourg.
Et en premier lieu, une revalorisation statutaire et indemnitaire de leur métier qui peine à attirer de nouveaux arrivants, notamment en raison du salaire, 1450 euros pour un surveillant débutant, bien loin de ce qu'il faudrait, selon Hervé Sego, délégué régional FO à la prison de Grasse.
1450 euros pour le métier dangereux qu'on fait, mais pour les nombreuses contraintes auxquelles on fait face, et surtout de la dangerosité et du peu d'attractivité, on pense véritablement qu'on ne parviendra pas à recruter sans revaloriser le métier.
Le manque de candidats et la défection parfois de certains surveillants déjà en poste amènent à un problème sécuritaire que dénonce Thibaut Capel, délégué FO à la prison de Fleury-Mérogis.
Ça va avoir un impact sur toutes les sécurités, à savoir la sécurité des détenus qu'on garde, la sécurité des citoyens et la sécurité forcément des surveillants de prison. On a tiré la sécurité des établissements et des effectifs vers le bas pendant des années. Aujourd'hui, voilà, nous proposons un plan de sauvetage de l'administration pénitentiaire et vu l'état aujourd'hui, forcément, il va falloir mettre des sous sur la table, on n'a pas le choix. On nous dit que ça coûte trop cher, mais moi je vous le dis, la sécurité de mes collègues, elle n'a pas de prix.
Depuis la mobilisation de janvier 2018, le syndicat estime que rien n'a bougé. Et Thibaut Capel veut même aller plus loin que le protocole d'accord signé à ce moment-là avec la garde des Sceaux.
La mise en place du système de taser, la révision légale de la fouille des visiteurs, chose qui n'apparaissait pas l'année dernière, la mise en place et le déploiement des brigades cynophiles sur la lutte contre le stupéfiant et l'explosif. Il faut aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on passe des paliers dans la violence. Et comme l'État est incapable d'endiguer en apportant de la nouveauté sur les établissements pénitentiaires, il faut aujourd'hui hausser un petit peu le ton sur les revendications.
Les syndicats demandent également la classification des établissements en fonction du profil des détenus et ils ont bon espoir d'être entendus là-dessus.
Plus de moyens, c'est aussi la revendication ce jeudi de 5 syndicats des finances publiques. CGT, Solidaire, FO, la CFDT et la CFTC appellent à la grève. Les administrations des finances publiques discutent en ce moment des prévisions de moyens pour les années à venir et les fonctionnaires dénoncent les suppressions de postes prévues. Cette année pourtant, souligne Olivier Vadebout, ils ont été davantage sollicités à cause du prélèvement à la source. Il est secrétaire général à la CGT Finances Publiques et il s'explique.
Depuis des années, notre administration elle est soumise à des suppressions d'emplois, des restructurations et on voit nos missions en fait qu'on a de plus en plus de mal à exercer. Cette année, en plus, on a eu le prélèvement à la source qui est une charge de travail supplémentaire pour nos collègues. Alors même que dans la même période, on nous supprimait encore 1600 emplois sur l'année précédente et 2200 sur cette année. Et en plus, on devrait subir des restructurations très fortes qui devraient aboutir à, en tout cas, la suppression de toute une série des centres des finances publiques sur le territoire. Quand on parle finances publiques, on voit beaucoup l'impôt, mais la deuxième mission qu'on a, nous, c'est le contrôle et la gestion des collectivités locales et de l'État. Or, on voit bien qu'en fait, avec la suppression d'emplois, c'est cette partie de mission moins visible qui serait la première touchée. Or, on sait que si on diminue le rôle du comptable et donc de cette vérification-là, eh ben, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un certain nombre de dérives dans la gestion des collectivités locales. On ne dit pas que ça sera partout le cas et on ne dit pas que c'est partout possible, mais on sait bien que moins il y a de contrôle, plus il y a de chances de dérive. Et en fait, ça nous inquiète pour l'avenir.
Le secrétaire général de la CGT Finances Publiques, il répondait à Catherine Pétillon. La loi Pacte est de nouveau discutée depuis hier à l'Assemblée nationale. Comprenez la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, discutée donc dans l'hémicycle. Et ce matin, les députés vont aborder le volet très controversé de la privatisation d'Aéroports de Paris. Une privatisation refusée par les élus de tous bords. 4 ONG attaquent l'État pour inaction face au changement climatique. La plainte sera déposée aujourd'hui. Ce sont ces ONG qui avaient lancé la pétition en ligne. L'affaire du siècle signée par plus de 2 millions d'internautes. Le gouvernement répond que des mesures commencent à porter leurs fruits et qu'une partie de la population française, citant les gilets jaunes, qu'une partie de la population n'est pas prête à des changements brusques pour le climat. Et puisque l'on parle climat, voici une pollution qui n'arrange rien à l'affaire. Deux jours après le naufrage du cargo italien Grande America au large de La Rochelle, une nappe d'hydrocarbures se dirige vers les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. La pollution pourrait toucher la façade atlantique d'ici dimanche soir ou lundi. Voilà ce que dit le ministre de la Transition écologique. Et la façade atlantique sera grise et humide ce jeudi, comme les trois quarts du pays. Seul le littoral méditerranéen verra le soleil, selon Météo France. Les températures stagnent, avec ce matin 5 degrés à Besançon, 8 à Paris, 8 également à Dunkerque et à Lyon. Comptez 10 degrés ce matin à Rennes et Bordeaux, entre 12 et 15 degrés sur le littoral sud. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, Jacques
6h40,
Meunier.
Pile
bonjour.
À la seconde
nous
près.
Sommes à l'heure, Jacques
bonjour,
Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Après le journal de l'actualité, place à votre journal des idées. Et il fait écho aux questions que l'on vient d'aborder, puisque vous vous intéressez aux jeunes pour le climat. Une mobilisation est encore prévue demain vendredi.
Oui, alors elle est à la une de l'hebdomadaire Les Inrecuptibles. Gérard Amissel, auteur de « Que reste-t-il de l'avenir ?», publié aux éditions Apogée, estime que le mouvement des jeunes pour le climat amorce une sortie du présentisme et ouvre à nouveau un horizon d'attente. Après la faillite de l'idéologie du progrès, le présentisme est l'idée selon laquelle, puisqu'il n'y a plus de progrès ni d'avenir radieux, il faut vivre le plus intensément et le plus vite possible, maintenant. Dans une sorte de surenchère de l'urgence, sociale, économique, terroriste, les jeunes qui se mobilisent pour le climat reprochent à leurs parents d'avoir trop pensé au présent, alors que pensent à l'avenir. Le philosophe évoque la notion d'horizon dans la phénoménologie de Husserl, cette ligne qui limite notre regard, mais derrière laquelle on pouvait imaginer d'autres paysages. Il estime qu'aujourd'hui, elle ne peut plus illustrer notre rapport à l'avenir, car nous passons notre temps à l'anticiper. Et lui, il préfère la métaphore acoustique de l'effet Larsen. L'horizon stagnant du catastrophisme donne à la temporalité la forme d'une boucle qui provoque une augmentation progressive de l'intensité du signal. Des lanceurs d'alerte nous mettent en garde sans arrêt, tiennent des discours apocalyptiques qui s'ajoutent aux nombreuses inquiétudes actuelles. Plus on anticipe, plus on se fait peur, plus on veut aller vite, d'où un état de sidération, un sentiment d'urgence permanent. C'est le sifflement de plus en plus strident du Larsen. Face à cela, il faut rompre avec la conception linéaire du temps qui est caractéristique de l'idéologie du progrès. Dans les pages idées de Libération, Marielle Massé évoque le beau livre d'Arthur Lockman qui fait dans La vie solide, publié chez Payot, le récit de son apprentissage d'un métier tout en force physique mais aussi en écoute subtile des propriétés du bois et des gestes qui l'autorisent, le métier de charpentier. La charpente est devenue pour lui une éthique, une clé pour s'orienter dans l'époque. Il y a gagné un autre corps, d'autres impératifs, d'autres mots, le cœur au soleil, d'autres façons de se relier aux autres et au temps, mais aussi de penser. Tout comme Jean-Baptiste Vidalou, philosophe et bâtisseur en pierre sèche, une intelligence matérielle irrigue aussi de part en part l'essai qu'il consacre aux luttes actuelles. C'est ce qu'il appelle « être forêt ». Être forêt, ce n'est pas se prendre pour un arbre, c'est suivre la piste de cet événement vertical qu'est une forêt. Pas seulement respecter la nature, voir dans la forêt une réserve de biodiversité, mais y reconnaître une idée, une pensée à entendre. S'enforester, dirait Baptiste Morisot, philosophe et pisteur de loups, qui s'engage quant à lui sur la piste animale. On doit entendre dans ses livres mieux qu'un dialogue de la philosophie avec elle-même, avec sa nostalgie du concret, souligne Marielle Massé. D'abord, la soif si actuelle d'un vivre autrement, se relier autrement aux autres, renouer avec le monde naturel, bâtir, installer quelque part ce que l'on a rêvé, faire des cabanes pour occuper le terrain et jardiner les possibles, pas pour prendre place, faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de place faite, de place refusée, de place prise ou à prendre, écrit-elle aussi dans un livre qui vient de paraître chez Verdier, Nos cabanes, de quoi nourrir l'imaginaire des jeunes. Dans l'hebdomadaire Le 1, qui titre cette semaine « Peuvent-ils sauver la Terre ?», Camille Lichère, 20 ans, étudiante en mathématiques, revendique une approche philosophique de l'écologie. On écrit souvent sur nos pancartes que nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Laurent Grelzamer revient dans l'édito sur la grève mondiale du 15 mars. Les jeunes lycéens et étudiants qui appellent à la grève scolaire court-circuite purement et simplement le niveau national en intervenant au plan mondial. Et Anne Muxel le souligne, ils font fi des stratégies nationales, des questions qui bloquent les États dans leur prise de décision. Ils s'adressent finalement à une sorte de gouvernement global. La sociologue rappelle les derniers sondages pour les élections européennes. La liste Europe Écologie Les Verts séduirait 16%, voire 18% des 18-24 ans, contre 8 à 9% pour l'ensemble de la population. La dernière livraison de la revue Mots, les langages du politique, est consacrée aux mots de l'écologie, de ceux qu'on peut lire sur les pancartes des manifestants à ceux qui s'engagent à réoutiller la société en concept mobilisateur. Guillaume Carbou étudie la tradition d'un certain romantisme révolutionnaire, critique du consumérisme et du productivisme, illustré par des auteurs comme l'américain Thoreau, Ivan Illich, André Gortz ou Arne Naess. Ces critiques ne sont pas rétrogrades, résume-t-il. Elles plaident, selon l'expression d'Henri Lefebvre, non pour un retour, mais pour un détour par le passé pour inventer un monde meilleur. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, l'interminable feuilleton du Brexit.
C'est ça, énième étape, pas de validation en tout cas pour l'accord de Theresa May, mais pas de Brexit sans accord non plus. En deux votes coup sur coup, donc mardi et mercredi, les députés britanniques ont encore une fois acculé Theresa May et rendu plus flou peut-être la date du Brexit. L'Union européenne ne veut plus renégocier. La solution, dit-elle, est au Royaume-Uni, mais elle reste à fabriquer. Laquelle sera-t-elle ? On voit ça avec vous, Richard Davies. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone, professeur de civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Alors, on est dans l'attente aujourd'hui d'un troisième vote au Parlement. On va en reparler, mais comment est-ce que vous voyez les choses pour la séquence du début de semaine ? Donc, rejet de l'accord de Theresa May d'un côté, rejet du no deal de l'autre côté, donc pas de sortie sauvage, mais toujours pas de sortie ordonnée selon les termes de Theresa May. Est-ce qu'elle est désavouée plutôt selon vous ou toujours en course ? Comment faut voir les choses ?
Je pense que la situation est de plus en plus confuse, surtout pour la Première ministre elle-même. Son autorité est bafouée complètement depuis hier, encore plus qu'avant, mais elle continue sur le même chemin. Elle va sans doute représenter son deal encore au Parlement cette semaine ou la semaine prochaine. Donc elle semble pas vouloir changer de cap.
Alors quand vous parlez d'autorité bafouée, est-ce que ces rapports à l'écart de voix et au désaveu de ce vote de mardi relativement à son accord, parce que c'est un écart de voix qui est moins fort que lors du rejet du 15 janvier, là, c'était 432 voix contre 202. Avant-hier, mardi, c'était 391 voix contre, 242 pour, 150 de différence. On pourrait dire qu'elle remonte un peu quand même auprès du Parlement.
En effet, c'est son espoir que si elle le représente encore une fois cette semaine et peut-être une quatrième fois la semaine prochaine, qu'elle petit à petit, elle va mettre ses adversaires devant le choix final entre son deal et pas de Brexit du tout. Donc ça va peut-être changer d'avis les plus durs des Brexiteurs. Mais ce qui a changé hier, c'est la situation au sein de son gouvernement. Donc il y avait 13 ministres qui se sont abstenus dans le vote et il y a un ministre qui a démissionné depuis qui a voté contre. Donc l'autorité à l'intérieur de son gouvernement est complètement... ça n'existe plus.
Hein. Oui, c'est ça. Elle vient de perdre la 15e membre de son gouvernement avec Sarah Newton, qui était la ministre chargée du handicap. Justement, si vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vraiment compliqué, qu'est-ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi, début de soirée ? Il y avait une députée Caroline Spellman, qui avait soutenu un amendement pour empêcher un Brexit sans accord, qui finalement l'a retiré. Et finalement, on arrive à cette situation un peu étrange dans laquelle, effectivement, des ministres s'abstiennent contre le propre amendement qu'ils sont censés porter.
Oui, c'est absolument incroyable, ça c'est du jamais vu. La situation au Parlement, que j'ai suivie à la télévision en direct, c'était très, très... très confuse parce que, voilà, comme vous avez dit, le député Madame Spielman a finalement décidé de ne pas présenter, demander son amendement au vote, mais que ça a été voté quand même parce que quelqu'un d'autre a pris sa place. Et contre toute attente, donc ce vote a passé contre le gouvernement de justesse. Et dans un deuxième vote, Donc là, plusieurs ministres se sont abstenus et la 14e a voté contre. Donc c'était une situation un peu chaotique au Parlement hier soir. Donc on est dans un domaine vraiment du jamais vu hier soir.
Oui, parce qu'on en est arrivé à cette situation un peu limite où effectivement la première proposition de Brexit sans accord a été rejetée à 312 voix contre 308 avec l'aide de députés conservateurs. Alors si on revient au début de semaine maintenant et qu'on parle de la stratégie de Theresa May vis-à-vis de l'Union européenne et du Parlement, est-ce qu'on peut dire qu'elle a bien négocié ces fameuses garanties juridiques qu'elle était venue chercher à Strasbourg lundi dernier? Garanties juridiques, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit obtenir des réassurances juridiquement contraignantes sur, en gros, le caractère provisoire du maintien dans l'union douanière l'Irlande, c'est-à-dire une garantie du non-retour de la frontière irlandaise, finalement désavouée, dit-on, par l'Attorney General Geoffrey Cox le mardi matin. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, est-ce que c'est une bonne négociation?
Non, on ne peut pas dire que c'est une bonne négociation. Justement, vous parlez de garantie, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de garantie. Et ce que disait justement Monsieur Cox, je pense que elle a pas pu renégocier complètement, pas renégocier du tout l'accord qu'elle a signé. Donc, ça n'a pas fait changer d'avis suffisamment de députés qui sont toujours farouchement contre le deal proposé par Madame May. Pour ces gens-là, en fait, le Brexit, le deal proposé par Madame May n'est pas le Brexit, n'est pas suffisamment Brexit. Donc, ils préfèrent un no deal que le deal proposé par Madame May.
Et dans cette situation, puisque la question c'était celle du backstop, le filet de sécurité irlandais, est-ce que ça veut dire que elle n'est pas simplement techniquement coincée au moins sur cette question, c'est-à-dire que sans abandonner le backstop, il n'y a pas d'accord validé possible par le Parlement et notamment par les DUP unionistes, et qu'en même temps il n'y a pas d'accord avec l'Union européenne possible sans la question du backstop, et de toute façon pas renégociable, a dit l'Union européenne.
En effet. Donc, il me semble absolument impossible de régler ce problème-là. Soit elle abandonne le DUP et les plus durs des Brexiteers, elle cherche un accord avec certains travaillistes pour un accord pour un Brexit encore plus moins dur, avec peut-être un maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière, ou sinon elle continue en espérant que le DUP et les Brexiteers vont changer d'avis. Mais les deux cas ne me semblent pas très probables pour l'instant, donc c'est difficile à prévoir une sortie de la crise.
Oui, et qu'on reparle de la stratégie. Donc, il a été avéré. Il y avait une vidéo le montrant, je crois, autour du 14 février ou mars, qui est sortie, qu'il y avait une stratégie où il s'agissait de rallier les plus ultra des Brexiteurs à force de votes successifs, en quelque sorte faire plier le Parlement, comme vous l'avez évoqué. Est-ce que ça veut dire d'une part que cette stratégie s'est effondrée parce qu'elle reposait justement sur la question d'un no deal toujours possible qui n'existe plus, et que donc cette rhétorique de mon accord ou le chaos n'existe plus aujourd'hui pour Theresa May, ou alors elle est encore possible? Vous parliez de vote à venir encore.
Je pense qu'il est encore possible que le vote sans deal passe encore. C'est peut-être même le plus probable des scénarios. Mais c'est très difficile de savoir. Elle ne semble pas vouloir changer de cap. Donc, elle s'entête dans sa stratégie.
Oui.
Donc, aujourd'hui, c'est vraiment... Et peut-être avec l'approche de la date finale, le 29 mars, peut-être ça va changer. Ça a changé d'avis des gens. Hein. Et c'est difficile à savoir.
Et quelle durée de vie, si on peut parler ainsi, vous donneriez à Theresa May? Déjà, est-ce qu'elle peut tenir jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire mercredi prochain, la date prévue pour un troisième vote là sur l'accord sur le Brexit? Entre-temps, elle devrait être revenue du côté de l'Union européenne.
Ouais, j'ai regardé de près Madame May hier soir à la télévision et elle semble vraiment de plus en plus fatiguée physiquement, mentalement. Elle doit être épuisée. Cela dit, changer de Premier ministre en ce moment n'est pas envisageable. Ça remettrait tout en question. On ne peut pas changer de Premier ministre juste comme ça du jour au lendemain. Il fallait revoter au sein du Parti conservateur. Donc, je pense que pour l'instant, elle va rester au moins jusqu'à la fin du mois. Mais c'est clair qu'avec son autorité, elle va bafouer complètement depuis hier, encore plus qu'avant, son avenir à la tête du gouvernement est limitée dans le temps, hein, ça c'est clair.
Et donc du moins, elle devrait obtenir aujourd'hui, selon vous, ce mandat pour un report de la date du Brexit, cette extension de l'article 50, ça, pas de problème ?
Ça me semble assez logique, c'est la suite logique des votes d'hier soir. Mais bon, la logique n'est plus d'actualité au Parlement britannique en ce moment. Il se passe des choses incroyables.
Oui. Et une dernière chose qu'on voit revenir, donc il y a cette question possible. On verra de votes en cascade sur des options avec un Brexit soft. C'est ce que vous expliquiez quand vous disiez faudrait peut-être un rapprochement avec les travaillistes. Mais il y a aussi Nigel Farage qui est revenu en force avec une sortie au Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à force d'allonger ces négociations de voir venir un peu dans l'actualité, ce thème de la trahison de 2016, tout simplement. Et là, situation vraiment assez insupportable pour plusieurs députés, enfin, même une partie de la classe politique.
Bon, Nigel Farage a parlé au Parlement européen, pas au Parlement de Westminster.
Oui, c'est vrai.
C'est clair que cette idée de trahison est là depuis 2016.
Oui, parce qu'il a pris la tête d'un parti anti-Brexit, voilà, je le précise de nouveau.
Tout à fait. Et en plus, donc, il y a pas mal de conservateurs qui sont tout à fait d'accord avec Farage. Voilà, c'est la menace de campagne contre le Parlement, en accusant tout le Parlement, tous les députés de trahison, ça monte en force en ce moment. Donc, c'est très inquiétant la situation dans le pays.
Oui, donc situation politique à surveiller. Le vote d'aujourd'hui, la date du 20 mars, on aura l'occasion d'en reparler. Et merci beaucoup pour vos explications ce matin, Richard Davis, professeur de civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des relations Royaume-Uni-Union européenne.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Radio France, partenaire du salon Livre Paris du 15 au 18 mars. Venez rencontrer quelques grandes voix de la radio pour la signature de leurs livres sur le stand des éditions Radio France. Mathieu Vidard, Philippe Collin, François-Régis Gaudry, Laurent Vallière, Thomas Legrand, Émile Bravo, Thomas Negaroff et bien d'autres rendez-vous. Renseignements sur edition.radiofrance.fr.
Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Toujours plus costaud, toujours très rapide, les rugbymen d'aujourd'hui ont changé de gabarit. La beauté du jeu s'en ressent, et que dire des risques pour leur intégrité physique? Alors le rugby n'est-il plus qu'un sport de brut? On en débat ce jeudi dans Du grain à moudre sur France Culture.
Du grain à moudre, ce jeudi à 18h20 et sur franceculture.fr.
6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins.
Mais
et
oui,
avec vous Guillaume Erner,
mais
bonjour.
Absolument, Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui,
comment gagner les élections?
Vous savez,
c'est
une
question qui se pose, alors ça se pose en Hongrie comme ailleurs, Xavier, lorsqu'on est un homme politique. Eh bien, jadis, on pouvait gagner les élections en se faisant aimer. Désormais, il est préférable de se faire haïr. La haine est une force beaucoup plus puissante que l'amour, en stratégie électorale en tout cas. Alors certes, la haine comme manière d'unir, c'est vieux comme Freud, puisque Freud invoquait la propension des foules à se tenir chaud en haïssant une même personne, un même groupe de personnes. Mais voilà. Cette théorie a, semble-t-il, trouvé une nouvelle application grâce à deux consultants américains, George Birnbaum et Arthur Finkelstein, spécialistes de communication politique, et c'est le site américain de BuzzFeed qui le révèle dans une enquête absolument surprenante. Finkelstein est ainsi crédité d'une méthode très efficace pour permettre aux partis, principalement aux partis de droite dure, de l'emporter. Pour lui, chaque élection est jouée avant d'avoir commencé. Les gens savent fort bien, non pas tant pour qui ils votent, mais contre qui il vote. Et il est beaucoup plus facile, selon Finkelstein, de démoraliser ses adversaires plutôt que de motiver son camp, de faire des propositions. Cette méthode, il l'a expérimentée pour la première fois avec l'élection de Nixon et avec la campagne pour Nixon en 1970, choisissant trois sujets clivant: la drogue, le crime, les races. Il faut désigner un danger venu de la gauche. Telle est la recette professée par Finkelstein. Chaque campagne suppose un ennemi à abattre et cet ennemi doit être le plus concret et le plus incarné possible. Il faut marteler aux électeurs qu'ils doivent s'opposer à des démons tellement diaboliques que le plus paresseux des électeurs renoncera à sa canne à pêche pour aller voter. Alors, l'axiome de Finkelstein est, par exemple, on ne fait pas la guerre contre les nazis, mais contre Hitler. On ne lutte pas contre Al-Qaïda, mais contre Ben Laden. Et c'est exactement ce qu'a fait Birnbaum, disciple du dit Finkelstein, lorsqu'il a été recruté par Viktor Orban en 2008. C'est lui qui a eu l'idée de cibler un financier juif menant des actions philanthropiques, George Soros, de taper sur Soros et ses œuvres, notamment l'université Soros, dont vous allez entendre le recteur dans quelques instants. Mikhail Ignatieff sera à ce micro. Taper sur n'importe qui, mais taper, taper fort. Telle pourrait être la recette du succès en politique pour ces deux consultants. Tiens, et si ça expliquait pourquoi certains hommes politiques, ici même en France, tapaient sur les journalistes?
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et oui, ce matin, vous allez vous réveiller avec un document exclusif, une interview de Mikhail Ignatieff. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez l'institution qu'il dirige. C'est le recteur de la fac la plus controversée au monde, ou presque, la fac Soros. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a pilonné cette fac pour se faire élire. Mikhail Ignatieff est la troisième grande voix à évoquer la situation européenne dans la série que nous vous proposons au matin. Mikhail Ignatieff sera fidèle au poste aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture.